Patria, patriarca, 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 patri, patriarca, patri.
Les miens, pour que le beat tienne, le micro en main, que mon message parvienne.
C'est la révolte des femmes de ménage, des camionneuses et des petites filles bien sages.
Whatever Lola wants, Lola gets.
Résiste, prouve que tu existes. Cherche ton bonheur partout. Va, refuse ce monde égoïste.
I wanna be a butch, I wanna be a butch. Cause butchs are strong and sensitive. Butchs are sexy and wonderful, powerful and brave and queer and straight lies and whores.
Et on se prend la main. Et on se prend la main. Une fille au masculin. Un garçon au féminin.
L'émission pour
déranger.
Une émission féministe.
Les deuxièmes et quatrièmes mercredis de chaque mois.
De 18h30
à 20h.
Sur Radio Kaleidoscope
97 FM.
1h30 de féminisme pur.
Ça me fout la rage. Une telle rage que ça m'écrase le cœur, comme un étau cube. J'ai envie d'être forte, plus forte qu'eux, plus grande et plus lourde, plus ignoble et sadique. Des pieux, de la haine comme une enclume sur leur sale face de porc, puant comme la putréfaction, pourrissant comme leur emprise. Et tous les souvenirs que ça ramène. Arnaud, Fabien, Mano, Greg, les voitures, les insultes, les mots crades et pervers. Les sourires de chien, les yeux, le regard qui te jauge, te prend, t'accapare, dispose, de toi comme d'un objet. Et puis c'est là dans le décor, tu le sais dès que tu es seule dans la rue et que tu distingues le sexe de la personne qui arrive. Même pas envie de cogner en fait, impuissance comme toujours, la haine. Et la peur, cette putain de peur du moindre bruit qui a soudain des milliards de sources différentes et angoissantes. Impuissance. Envie de vomir et de tuer, mais sans jamais l'imaginer vraiment. Besoin de faire sortir et de dormir profondément, lourdement. Mon corps n'est pas un objet dans une zone de gratuité, ni en libre service, ni en portes ouvertes permanentes. Je dois pas avoir peur dans la rue. C'est pas normal. C'est vrai. Et ça existe. Ce n'est pas rare. Encore moins exceptionnel. Absolument inadmissible. Fatigue et usure. Angoisse. Sourde qui cogne et assomme. Paralyse. Neutralise. Invalide. Plus rien ne dépend de ma volonté. Même pas mes membres. Ni mes gestes. Mon corps se désolidarise de mon esprit. Envie d'hurler et de détruire cette boule, ce nœud dans ma gorge. Délier, faire sortir, expulser!
Bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue sur Dégenré. Ce soir, on va vous parler de colère.
Voilà, vous en avez entendu une petite bribe. Voilà.
On va vous parler de colère parce que les femmes sont en colère, plein de femmes sont en colère. Malheureusement, peu d'entre elles, nous le pensons, nous l'avons observé, nous l'observons chez nous-mêmes.
Voilà, on peut le ressentir dans nos tripes aussi.
Voilà. Nous ne savons pas exprimer, nous n'avons pas appris à exprimer nos colères comme des armes qui peuvent être utiles pour se défendre dans ce monde, qui est un monde qui ne nous convient pas, qui est violent contre nous, qui est violent contre beaucoup de monde, hein, qui exerce des violences de tout type, capitalistes, étatiques, policières, on en passe...
De classe, etc.
Exactement,
quoi.
Et parmi toutes les violences qui existent dans ce monde, il y a aussi les violences patriarcales, on ne cesse de vous en parler depuis maintenant des années, et ces violences-là peuvent nous mettre en colère, et de façon globale, politique, autant que de façon personnelle et intime, et c'est peut-être aussi dans les façons personnelles et intimes que nous nous rendons compte combien nous avons du mal parfois à nous autoriser à exprimer nos colères avec des mots justes, précis, efficaces. Moi, par exemple, quand je suis en colère, quand j'ai la rage, qu'est-ce que je fais ? Eh bien, je pleure.
Voilà, et du coup, c'est comment elle peut s'exprimer et comment aussi faire un moment que ce ne soit pas quelque chose qui nous ronge de l'intérieur. Parce que je pense que dans cette idée d'expulser, de faire sortir, bah c'est ça en fait, c'est dire, mais moi, je ne veux pas que cette colère, elle se retourne contre moi et qu'elle me bouffe. Alors voilà, il y a une copine qui nous racontait ça, qui nous disait que, par exemple, la colère, elle est dans le foie et que du coup, si on la garde, ça nous ronge de l'intérieur. Et moi, c'est vraiment des trucs que j'ai pu ressentir à des moments.
Alors voilà, petit conseil de santé dégenré, piquer des colères régénère le foie. Voilà, c'était le matin santé.
Et je crois que c'est vraiment quelque chose qu'on sent socialement hyper fort. C'est que c'est vraiment très genré, en fait, ce regard social. C'est que une femme, c'est fait pour être doux, compréhensive, patiente, etc. Et du coup, c'est pas fait pour être violente, pour exprimer de la colère. Et du coup, on sent que c'est pas quelque chose qu'on attend de nous et que effectivement, tu passes pour une extraterrestre en fait quand tout à coup tu te mets en colère. C'est d'ailleurs c'est ce regard sur l'hystérie, des choses comme ça quoi. Et du coup, c'est vraiment aussi comment à un moment, on peut assumer de sortir du rôle dans lequel on veut absolument nous assigner et comment on a envie des fois de pouvoir assumer. Ouais, je suis en colère, ouais, j'ai la haine, et alors, pour autant, tu vas m'écouter, quoi.
Et on a un peu discuté avec différentes femmes pour préparer cette émission, et c'est vrai que moi, j'ai rencontré la colère chez les femmes que j'ai rencontrées, mais c'était une colère souvent rentrée, une colère qui ne pouvait pas vraiment s'exprimer. Moi, j'ai entendu, avec d'autres mots, bien sûr, mais j'ai entendu parler de répression. J'ai entendu des femmes dire... Oui, je me mets pas trop en colère, mais enfin, vous comprenez aussi, c'est qu'en face, après...
Voilà. Donc c'est qu'est-ce qui t'attend derrière si tu te mets en colère et
ou,
peut-être,
ou rencontrer des femmes qui alors te disent « Ah, moi, je me mets en colère tout le temps, je pique des colères, mais toute la journée. Oula, mais mon mari, c'était pire que moi, lui, il était méchant. Lui, c'était pas pareil, lui, c'était méchant et tout. » Bon, ouais. Voilà, des différences de en quoi la colère... n'est pas une arme efficace dans les mains des femmes. C'est un espèce de truc qui va s'exploser contre le mur, mais qui ne crée... Enfin,
qui n'a pas forcément de prise sur le monde qui l'entoure.
Voilà. Et comment nous pouvons changer ça ? Comment nous pouvons utiliser la colère qui est en nous comme un outil révolutionnaire ? Allez, utilisons des mots forts. Et c'est un peu ce qu'on va essayer
de toucher du doigt
ce soir, naviguer autour de cette idée de colère, de qu'est-ce qui nous fait ressentir la colère. Donc voilà, on va vous proposer des lectures de textes, on vous proposera différentes choses, et puis des musiques qui pour nous parlent de cette colère d'une façon ou d'une autre.
Voilà, de femmes qui se disent qu'à un moment, bah ouais, elles ont envie d'assumer cette colère et que ça les bouffe pas de l'intérieur.
Moi j'avais aussi envie de parler de la culpabilité, mais on pourrait faire une émission entière sur la culpabilité. En tout cas, je la trouve hyper liée, en tout cas chez moi et chez ce que j'observe chez beaucoup de femmes. Les liens entre ces deux éléments de la colère et de la culpabilité sont assez forts, je trouve. Mais voilà, on pourrait faire une émission entière là-dessus. Donc, vous annoncez qu'on va écouter un morceau de Shifa, Les Flammes de la Colère, et puis après, on va vous lire un texte qui s'appelle « De l'usage de la colère ». C'est un texte d'Audrey Lorde. Audrey Lorde, c'était, puisqu'elle est décédée, une auteure, poétesse, militante, guerrière. J'ai oublié la somme de ses actions dans le monde, écrivaine, donc. Lesbienne noire américaine, ou noire lesbienne américaine, je ne sais plus dans quel ordre
elle se définit.
Elle se définit. Toujours est-il que c'est une femme qui a écrit des textes que je trouve très importants et que nous avions envie de proposer ce soir dans cette émission sur la colère, puisque ça fait partie des colères des femmes aussi, ces colères, ces voix d'une femme noire qui raconte sa colère par rapport au racisme et notamment par rapport aussi aux féministes blanches que nous sommes, nous, présentement, et que... Nous avons fait le choix aussi de porter dans un truc de... Nous voulons écouter ça, nous voulons l'entendre et nous voulons le...
Puis il y a vraiment plein de choses à en tirer sur justement cet usage de la colère.
Donc après les flammes de la colère de Shifa, nous vous proposons de l'usage de la colère, la réponse des femmes au racisme de Audrey Lorde.
De la colère, mais pourquoi, pourquoi attester les flammes? des flammes de la colère.
Le racisme. Croyance en la supériorité intrinsèque d'une race sur toutes les autres, et ainsi en son droit à dominer, manifeste et implicite. Les femmes répondent au racisme. Ma réponse au racisme est la colère. J'ai vécu avec cette colère, en l'ignorant, en m'en nourrissant, en apprenant à m'en servir avant qu'elle ne détruise mes idéaux, et ce, la plus grande partie de ma vie. Autrefois, je faisais tout cela en silence, effrayée par le poids d'un tel fardeau. Ma peur de la colère ne m'a rien appris. Votre peur de cette colère ne vous apprendra rien, à vous non plus. La réponse des femmes au racisme signifie qu'elles répondent à la colère. Colère de l'exclusion, des privilèges immuables, des préjugés raciaux, du silence, des mauvais traitements, des stéréotypes, des réactions défensives, des injures, de la trahison et de la récupération. Ma colère est une réponse aux attitudes racistes, aux actes et aux présomptions engendrées par de telles attitudes. Si vos relations avec d'autres femmes reflètent ces attitudes, alors ma colère et les peurs qu'elle fait naître en vous sont des projecteurs qui peuvent être utilisés pour grandir. De la même manière que j'ai appris à exprimer ma colère pour ma propre croissance. Mais comme une chirurgie réparatrice, pas pour culpabiliser. La culpabilité et les réactions défensives sont les briques d'un mur contre lequel nous butons toutes. Elles ne conviennent à aucun de nos futurs.
Comme je ne veux pas que ceci devienne une discussion théorique, je vais illustrer ces points en donnant quelques exemples d'échanges entre femmes. Par manque de temps, je n'en donnerai que quelques-uns, mais sachez que ces exemples étaient beaucoup plus nombreux. Par exemple, je m'exprime sans mâcher mes mots lors d'une conférence universitaire et une femme blanche me dit « Racontez-moi ce que vous ressentez, mais ne le dites pas trop durement, sinon je ne peux pas vous écouter. » Mais est-ce ma façon de m'exprimer qui l'empêche de m'entendre ou la menace d'un message qui l'appelle à changer sa vie ?
Le programme des études femmes d'une université du Sud, des États-Unis donc, invite une femme noire à intervenir après une conférence d'une semaine sur le thème des femmes noires et des femmes blanches. Je leur demande « Qu'est-ce que cette semaine vous a apporté ?» La femme blanche qui s'est fait le plus entendre déclare « Je pense que ça m'a beaucoup apporté. J'ai le sentiment que les femmes noires me comprennent vraiment mieux maintenant. Elles ont une meilleure idée d'où je viens. » Comme si la comprendre, elle, constituait le cœur du problème raciste.
Depuis 15 ans, le mouvement des femmes prétend débattre des préoccupations et des perspectives de toutes les femmes. Et j'entends, d'une rencontre à l'autre. Comment pouvons-nous débattre au sujet du racisme ? Aucune femme de couleur ne vient. Ou encore, l'autre visage d'une telle affirmation. Nous n'avons personne dans notre département possédant les qualités requises pour enseigner leurs œuvres. En d'autres termes, le racisme est un problème de femmes noires, un problème de femmes de couleur, et nous seuls pouvons en débattre.
Après ma lecture d'un extrait de mon travail intitulé « Poems for Women in Rage », une femme blanche me demande « Est-ce que vous allez écrire sur comment nous pouvons nous y prendre directement avec notre colère ? Je crois que c'est vraiment important. » Je lui demande « Comment utilisez-vous votre rage ?» Et ensuite, je dois me détourner de son regard vide avant qu'elle ne m'accuse de participer à sa propre destruction. Je ne suis pas là pour ressentir sa colère à sa place.
Des femmes blanches commencent à interroger leurs relations avec les femmes noires. Cependant, je les entends souvent se cantonner au cas des petits-enfants de couleur traversant les chemins de leur enfance, de la nourrice bien-aimée, de la camarade de classe occasionnelle du secondaire, ces tendres souvenirs sur ce qui était autrefois mystérieux, étrange ou dépourvu de sens. Vous évitez les souvenirs des préjugés de l'enfance, préjugés transformés au son du fou rire déclenché par les noms de Rastus ou Alfalfa. Vous évitez le souvenir criant du message lancé par le mouchoir de votre mère étalé sur le banc du parc juste après que je m'y sois assise. Vous évitez les images indélébiles et déshumanisantes des personnages de Amos and Andy, qui était une bande dessinée américaine raciste, comme les histoires drôles de votre père avant le coucher.
En 1967, je poussais ma fille de 2 ans dans un chariot à travers un supermarché. Et une petite fille blanche, à cheval sur le chariot de sa mère, s'écria tout excitée en nous croisant. « Oh, regarde, maman, le bébé d'une nourrice !» Et votre mère vous fait taire, mais sans vous reprendre. Et ainsi, 15 ans plus tard, lors d'une conférence sur le racisme, vous trouvez encore cette histoire amusante. Mais votre rire est plein de terreur et de malaise.
Une universitaire blanche se réjouit de la publication d'une collection créée par des femmes de couleur non noire. Ça me permettra de me confronter au racisme sans avoir à me coltiner l'intransigeance des femmes noires, me lance-t-elle.
Lors d'une rencontre culturelle internationale de femmes, une poète américaine blanche bien connue interrompt la lecture d'œuvres de femmes de couleur afin de lire son propre poème, effilé ensuite, à toute vitesse, à une table ronde importante.
Tout cela pour dire que si les femmes universitaires veulent vraiment engager un débat sur le racisme, elles devront prendre en considération les besoins et les conditions de vie des autres femmes. Quand une universitaire dit « je n'ai pas les moyens de me le payer », cela peut signifier qu'elle choisit comment dépenser son argent. Mais quand une femme qui dépend de l'aide sociale dit « je n'ai pas les moyens de me le payer », cela veut dire qu'elle survit avec une somme d'argent qui était à peine suffisante pour vivre en 1972 et que souvent, elle n'a pas assez à manger. L'Association nationale des études femmes, ici, même en 1981, a tenu une conférence dans laquelle elle s'était engagée à combattre le racisme. Pourtant, elle a refusé d'exonérer des droits d'inscription de femmes pauvres et les femmes de couleur, souhaitant présenter et animer des ateliers. Ce qui a empêché de nombreuses femmes de couleur, par exemple Wilmette Brown, de l'association Black Women for Wages for Housework, de participer à cette conférence. S'agit-il encore d'un nouvel exemple du monde universitaire débattant de la vie en circuit fermé? Aux femmes blanches ici présentes, pour qui ces comportements sont familiers, mais plus que tout, à toutes mes sœurs de couleur qui vivent et survivent à des milliers de confrontations de cette sorte, à mes sœurs de couleur qui, comme moi, tremblent de colère sous le joug de l'exploitation ou qui parfois jugent l'expression de notre colère inutile et destructrice, les deux accusations les plus fréquentes. Je veux parler de la colère, de ma colère, et de ce que m'ont appris mes voyages à travers ces empires. Tout peut être utilisé, excepté ce qui est gaspillage. Tu auras besoin de te souvenir de cela quand on t'accusera de destruction.
Chaque femme possède un arsenal de colère bien rempli et potentiellement utile contre ces oppressions, personnelles et institutionnelles, qui ont elles-mêmes déclenché cette colère. Dirigée avec précision, la colère peut devenir une puissante source d'énergie au service du progrès et du changement. Et quand je parle de changement, je ne parle pas d'un simple changement de point de vue, ni d'un soulagement temporaire, ni de la capacité à sourire ou à se sentir bien. Je parle d'un remaniement fondamental et radical de ces implicites qui sous-tendent nos vies. J'ai assisté à des situations où des femmes blanches entendent une remarque raciste, en éprouvent du ressentiment, se remplissent de fureur, mais restent silencieuses parce qu'elles ont peur. Cette colère étouffée demeure en elles comme un engin explosif désamorcé qui, trop souvent, va être ensuite violemment jetée à la tête de la première femme de couleur qui parle de racisme. Mais extérioriser la colère, la transformer en action au service de notre vision et de notre futur, est un acte de clarification qui nous libère et nous donne de la force. Car c'est par ce processus douloureux de mise en pratique que nous identifions qui sont les alliés avec lesquels nous avons de sérieuses divergences et qui sont nos véritables ennemis.
La colère est chargée d'informations et d'énergie. Quand je parle de femme de couleur, je ne veux pas uniquement dire femme noire. La femme de couleur qui n'est pas noire et qui m'accuse de la rendre invisible parce que je présuppose que ses combats contre le racisme sont identiques aux miens, cette femme a quelque chose à me dire et je ferais bien de l'écouter pour éviter que nous nous épuisions en nous affrontant sur nos vérités respectives. Si je participe, consciemment ou non, à l'oppression de ma sœur et qu'elle m'interpelle là-dessus, répondre à sa colère par la mienne ne fait qu'étouffer la substance de notre échange. C'est du gaspillage d'énergie. Eh oui, il est très difficile de rester tranquille en écoutant la voix d'une autre femme dire précisément une angoisse que je ne partage pas ou à laquelle j'ai moi-même contribué. En ce lieu, nous parlons loin des évidences les plus criantes de notre condition de femme assiégée, que cela ne nous cache pas l'importance et la complexité des forces qui se dressent contre nous et tout ce qu'il y a de plus humain dans notre environnement. Nous ne sommes pas ici en train d'analyser le racisme dans un vide social et politique. Nous agissons dans les rouages d'un système dont le racisme et le sexisme sont des piliers fondamentaux, établis et nécessaires au profit. La réponse des femmes au racisme représente un sujet tellement dangereux que lorsque les médias locaux tentent de discréditer cette conférence, ils choisissent, comme stratagème de diversion, d'attirer l'attention sur l'hébergement des lesbiennes pendant la conférence, comme si le courant de Hartford n'osait pas mentionner le sujet choisi ici pour nos discussions, le racisme, de peur qu'il ne devienne trop évident que nous, femmes, essayons d'analyser et de changer tous les aspects répressifs de nos vies. Les médias dominants ne veulent pas que des femmes, en particulier des femmes blanches, réagissent contre le racisme. Ils veulent qu'on accepte le racisme comme une donnée immuable dans la trame de notre existence, comme le coucher de soleil ou le rhume des foins. Ainsi, nous travaillons dans un contexte d'opposition et de menace, dont la cause n'est certainement pas due à ces colères qui existent entre nous, mais plutôt à cette haine violente braquée contre toutes les femmes, les gens de couleur, les lesbiennes et les gays, les pauvres, cette haine contre toutes celles et ceux qui cherchent à analyser comment résister aux oppressions et qui s'acheminent ainsi vers une alliance et une action effective.
Toutes les femmes qui veulent réellement un débat sur le racisme doivent reconnaître et utiliser la colère, parce qu'elle est vitale. Cette discussion doit être franche et créative.
Nous ne pouvons à aucun prix laisser notre peur de la colère nous détourner ou nous séduire et nous amener à accepter moins que la tâche difficile de rechercher l'honnêteté. Nous devons prendre très au sérieux le choix de ce sujet et les colères qu'il contient. Car soyons certaines que nos adversaires sont très sérieux dans leur haine envers nous et envers ce que nous essayons d'accomplir ici.
Et pendant que nous scrutons le visage souvent douloureux de la colère de l'autre, je vous supplie de vous souvenir que ce n'est pas notre colère qui me pousse à vous conseiller de fermer vos portes à clé la nuit et de ne pas vous promener seul dans les rues de Hartford. C'est la haine qui rôde dans ces rues, qui appelle à nous détruire si nous travaillons réellement pour un changement au lieu de nous laisser aller à des discussions universitaires.
Cette haine et notre colère sont très différentes. La haine, c'est la fureur de celles et de ceux qui ne partagent pas nos objectifs, et elle a pour but la mort et la destruction. La colère, elle, est une douleur provoquée par des décalages entre personnes égales, son but et le changement. Mais notre temps est de plus en plus compté. On nous a appris à considérer toute différence, autre que le sexe, comme un motif de destruction Et c'est pourquoi l'idée que les femmes noires et les femmes blanches peuvent faire face à leurs colères respectives sans se désavouer, sans rester pétrifiées, sans être muettes ni se sentir coupables, est en soi une idée hérétique et constructive. Elle implique une rencontre entre égales sur une base commune pour examiner la différence et pour bousculer ces idées héritées de l'histoire, car ce sont des préjugés qui nous séparent et nous devons nous demander à qui profite tout cela.
Les femmes de couleur en Amérique ont grandi au sein d'une symphonie de colère, d'être muselées, rejetées, de savoir que lorsque nous survivons, c'est en dépit d'un monde qui considère que nos vies valent moins que celles d'un chien. Un monde qui hait notre existence même quand elle n'est pas à son service. Et je dis symphonie plutôt que cacophonie, car nous avons dû apprendre à orchestrer ces fureurs afin qu'elles ne nous déchirent pas. Nous avons dû apprendre à cheminer à travers nos colères et à les utiliser comme énergie et force dans nos vies quotidiennes. Celles d'entre nous qui n'ont pas appris cette difficile leçon n'ont pas survécu. Et une partie de ma colère est toujours une offrande à mes sœurs qui sont tombées.
La colère est une réaction appropriée face au comportement raciste, comme l'est la fureur lorsque les actes issus de tels comportements ne changent pas. Aux femmes ici présentes qui craignent plus la colère des femmes de couleur que leur propre comportement raciste intériorisé, je demande: est-ce que la colère des femmes de couleur est plus menaçante que cette haine des femmes qui imprègne tous les aspects de nos vies? Ce n'est pas la colère des autres femmes qui nous détruira, mais notre refus de nous arrêter, d'écouter ses rythmes, d'apprendre en son sein, de dépasser les représentations pour en toucher la substance et d'exploiter cette colère comme une source importante de puissance.
Je ne peux pas cacher ma colère pour vous éviter la culpabilité, ni blesser les sentiments, ni répondre à la colère. Parce qu'agir ainsi, c'est insulter et banaliser tous nos efforts. La culpabilité n'est pas une réponse à la colère. C'est une réponse à nos propres actions ou à une absence d'action. Si la culpabilité mène au changement, alors elle peut être utile, puisqu'il ne s'agit plus de culpabilité, mais du début de la connaissance. Cependant, trop souvent, la culpabilité est l'autre nom de la faiblesse, l'autre nom d'une réaction défensive qui détruit toute communication. Elle devient stratagème, abritant l'ignorance et perpétuant les choses telles qu'elles sont rempart ultime contre tout changement.
La plupart des femmes n'ont pas développé d'outils pour se confronter de façon constructive à la colère.
Dans le passé, les groupes de conscience féministes massivement blancs parlaient de l'extériorisation de la colère, habituellement contre le monde des hommes.
Ces groupes étaient composés de femmes blanches, partageant les termes de leurs oppressions.
Il y avait généralement peu de tentatives pour énoncer clairement les différences sérieuses existant entre femmes, comme les différences de race, de couleur, d'âge, de classe sociale et d'identité sexuelle. À cette époque, on ne ressentait pas le besoin d'analyser les contradictions en soi, femmes en tant qu'oppresseurs.
On travaillait à extérioriser la colère, mais très peu à exprimer la colère des unes envers les autres. Aucun moyen n'a été développé qui permette aux femmes d'appréhender cette colère les unes envers les autres, hormis l'éviter, la détourner ou la fuir en se cachant sous un manteau de culpabilité.
Je n'ai aucun usage créatif de la culpabilité, la vôtre ou la mienne. la culpabilité est uniquement un moyen supplémentaire pour éviter d'agir en connaissance de cause, pour gagner du temps face à l'urgente nécessité de faire des choix clairs, face à l'approche de la tempête, qui peut nourrir la terre comme faire plier les arbres. Et si je vous parle avec colère, au moins vous ai-je adressé la parole. Je ne vous braque pas un revolver sur la tempe pour vous abattre en pleine rue. Je ne regarde pas le corps ensanglanté de votre sœur en demandant « Qu'a-t-elle fait pour mériter ça ?» Telle fut la réaction de deux femmes blanches à l'écoute du récit de Mary Church Terrell, qui leur racontait le lynchage d'une femme noire enceinte dont le bébé a ensuite été arraché de son corps. Cela se passait en 1921, et Alice Paul venait publiquement de refuser de soutenir l'application du 19e amendement à l'ensemble des femmes, refusant ainsi d'inclure les femmes de couleur, et ce, bien que nous ayons lutté pour l'application de cet amendement.
Les colères entre femmes ne nous tueront pas si nous savons les formuler avec précision, si nous écoutons le contenu de ce qui est dit, avec au moins autant d'intensité que nous mettons à nous protéger de la façon dont tout cela est dit. Quand nous nous détournons de la colère, nous nous détournons de perceptions nouvelles, affirmant ainsi que nous acceptons les schémas préétablis, des schémas dont la familiarité nous est mortelle et sécurisante. J'ai essayé d'apprendre en quoi ma colère m'est utile, autant que ses limites.
Pour les femmes éduquées à avoir peur, trop souvent, la colère est menaçante, destructrice. Dans la construction masculine de la force brutale, on nous a appris que nos vies dépendaient du bon vouloir du pouvoir patriarcal. Nous devions à tout prix éviter la colère des autres, car il n'y avait rien à en tirer, hormis de la souffrance. On nous aurait catalogués comme mauvaises filles, voire simples d'esprit, ne faisant pas ce qui était attendu de nous. Et si nous acceptons l'idée de notre impuissance, alors, évidemment, n'importe quelle colère peut nous détruire.
Mais la force des femmes réside dans le fait de reconnaître que les différences qui existent entre nous sont constructives, de faire face à ces idées reçues dont nous avons hérité, malgré nous, et que nous devons changer, maintenant. Les colères des femmes peuvent métamorphoser les différences en puissance, parce que la colère entre personnes égales donne naissance au changement, pas à la destruction. Et le malaise ou le sentiment de perte qu'elle provoque souvent n'est pas une fatalité, mais un signe de croissance. Ma réponse au racisme est la colère. Cette colère a ouvert des abîmes dans ma vie uniquement lorsqu'elle était tue, inutile à quiconque. Elle m'a aussi servi dans des salles de classe, sans lumière ni instruction, là où le travail et l'histoire des femmes noires étaient moins que vapeur. Elle a été ma flamme, dans l'étendue glaciale des regards ahuris lancés par des femmes blanches, des femmes qui voyaient uniquement dans mon expérience et dans l'expérience de mon peuple de nouvelles raisons d'avoir peur ou de culpabiliser. Et n'utilisez pas ma colère comme excuse pour rester aveugle, ni pour vous dédouaner de la responsabilité de vos propres actions.
Quand les femmes de couleur osent extérioriser la colère qui enserre trop de nos contacts avec les femmes blanches, on nous accuse souvent en disant que, je cite, « nous créons une atmosphère de désespoir, nous empêchons les femmes blanches de surmonter leur culpabilité, ou encore, nous faisons obstacle à la communication confiante et à l'action. » Toutes ces citations sont directement tirées de lettres qui m'ont été adressées. Une femme m'a écrit « parce que vous êtes noire et lesbienne, vous semblez parler avec l'autorité morale de la souffrance. » Oui, je suis noire et lesbienne. Et ce que vous entendez dans ma voix, c'est de la rage, pas de la souffrance. De la colère, pas de l'autorité morale. Il y a une différence.
Tourner le dos à la colère des femmes noires, avec l'excuse ou le prétexte d'être intimidée, ne donne aucune force à quiconque. C'est uniquement une autre façon de préserver les œillères raciales, le pouvoir des privilèges établis, intouchables, intacts. La culpabilité n'est qu'une autre façon de nous traiter en objet. On demande toujours au peuple opprimé de tendre un peu plus la joue, de construire un pont entre aveuglement et humanité. On attend des femmes noires qu'elles mettent leur colère au service exclusif du salut des autres ou de leur information. Mais cette époque est révolue. Ma colère m'a été douloureuse, mais elle m'a aussi permis de survivre et avant de m'en défaire, je vais m'assurer que sur le chemin de la clarté, il existe au moins quelque chose d'aussi puissant pour la remplacer.
Quelle femme ici est si amoureuse de sa propre oppression, au point qu'elle n'est plus capable de voir l'empreinte de son propre talon sur le visage d'une autre femme ? Quelle femme ici utilise sa propre oppression comme ticket d'entrée au rang des justes, loin des vents glaciales de l'examen de conscience ?
Je suis une lesbienne de couleur, dont les enfants mangent régulièrement à leur faim, parce que je travaille à l'université. Si leurs ventres pleins me font oublier mes points communs avec une femme de couleur dont les enfants n'ont rien à manger parce qu'elle ne peut pas trouver de travail, ou qui n'a pas d'enfants parce que les avortements clandestins et la stérilisation ont bousillé ses organes génitaux, si j'oublie la lesbienne qui choisit de ne pas avoir d'enfants, la femme qui reste dans le placard parce que sa communauté homophobe est son seul point d'ancrage, la femme qui choisit le silence plutôt qu'une autre forme de mort, la femme qui est terrifiée que ma colère ne déclenche la sienne, si je manque de reconnaître toutes ces femmes comme d'autres facettes de moi-même, non seulement je participe à l'oppression de chacune d'entre elles, mais je participe aussi à la mienne, et la colère qui se dresse entre nous doit être utilisée pour nous éclairer et nous renforcer mutuellement, et non pour fuir sous couvert de culpabilité ou pour creuser d'autres fossés. Je ne suis pas libre tant qu'une femme reste prisonnière, même si ses chaînes sont très différentes des miennes.
Et aussi longtemps qu'une personne de couleur restera enchaînée, je ne serai pas libre.
Ni aucune d'entre vous.
Je parle ici en tant que femme de couleur déterminée, non pas à détruire, mais à survivre. Aucune femme ne peut endosser la responsabilité de changer le psychisme de son oppresseur, y compris quand ce psychisme s'incarne dans le corps d'une autre femme. J'ai léché les lèvres d'une louve, la colère, et je m'en suis servie pour illuminer, rire, protéger, mettre le feu en des lieux où il n'y avait ni lumière, ni nourriture, ni sœur, en des lieux sans merci. Nous ne sommes pas des déesses, ni des matriarches, ni les édifices du pardon divin. Nous ne sommes pas les doigts de feu du jugement dernier, ni des instruments de flagellation. Nous sommes des femmes, toujours obligées de nous interroger sur notre puissance de femmes.
Nous avons appris à utiliser la colère comme on utilise la chair morte des animaux.
Et blessées, maltraitées, en nous transformant, nous avons survécu et grandi. Et selon les mots d'Angela Wilson, nous continuons notre chemin.
Avec ou sans les femmes qui ne sont pas de couleur.
Nous utilisons toutes les forces pour lesquelles nous avons lutté, y compris la colère. Et cela afin de concevoir et de construire un monde où toutes nos sœurs pourront grandir, où nos enfants pourront aimer.
Un monde où le pouvoir de toucher et de rencontrer la différence et les merveilles d'une autre femme transcendra finalement le besoin de destruction.
Car ce n'est pas la colère des femmes noires qui se répand sur cette planète comme une eau souillée.
Ce n'est pas ma colère qui lance des fusées, dépense plus de 60 000 dollars par seconde en missiles ou autres engins de guerre de mort.
Ce n'est pas ma colère qui massacre les enfants dans les villes, entasse des gaz offensifs et des bombes chimiques qui sodomisent nos filles et notre terre.
Ce n'est pas ma colère des femmes noires qui se désagrègent en un pouvoir aveugle, déshumanisant, qui nous détruira toutes si nous ne le combattons pas avec nos armes.
C'est-à-dire notre puissance à analyser et à redéfinir les principes futurs de notre vie et de notre travail. Notre puissance à imaginer et à reconstruire, colère par douloureuse colère, pierre par lourde pierre, un futur où la différence sera féconde et une terre qui soutiendra nos choix.
Nous ouvrons nos bras à toutes les femmes qui sont capables de nous rencontrer face à face, par-delà la chosification et par-delà la culpabilité.
Je marche sous les voûtes et les arches, galère sous les porches, crache sur les marches, les mains dans les poches, canette dans la manche. Je rêve de revanche en semaine et le dimanche. Je traîne en zone franche où l'indigène flanche, où le système se penche sur les peaux blanches. Lèche les plus riches, prêche les bakchiches, le vol, la triche, les vices qui aguichent. Ma vie c'est le vide, le creux, le bide, les points sordides, les blagues morbides. Le décor du nord et puis des caïds sans remords, aucun et que la fièvre de leur guide, des frères sous acide, des porcs qui décident d'infliger la mort sans risquer l'homicide, des tonnes de suicides et moi qui dilapide avant d'avoir des rides, ma santé et mon liquide. J'éprouve pour ce bled une rage qui m'obsède quand ils projettent de mettre en place l'apartheid, quand ma tête à l'écart et la cause qu'ils plaident, quand ils nous briment, nous rejettent et puis nous dépossèdent. Et mes tours sont laides, mon parcours est raide, je suis à bout, abîmé, nomade et sans remède. J'ai de la haine en trop, refuse l'entraide, je ne demande ni aumône, ni offrande, ni aide. La haine me suit, là où je suis. J'ai du mal à garder le fusil dans les tuiles. J'ai rempli le canon et puis il se peut qu'un beau jour pour un rien j'appuie. La chance me fuit, là où je suis. J'ai du mal à garder le fusil dans les tuiles. J'ai rempli le canon et puis il se peut qu'un beau jour pour un rien j'appuie. Tous les jours, je gère et endure. Insulte, lutte, chute, échec et injure. Ignore la nature, le sommeil et l'azur, et les couchers de soleil et les bouffées d'air pur. Je ne vois que misère, grisaille et bulldozer, et pas mal de mes frères moisir sans loisir. Choisir au hasard un boulot à saisir et se retrouver précaire et sans aucun plaisir. Alors moi je sors et m'emmerde à mort. Je vis sans horaire, je dors à l'aurore. J'adore l'univers de la nuit, ses abords et le doux réconfort d'un grand verre d'alcool fort. Les pauvres qui perforent, de riches coffres forts, sans effort se sauvent avant les renforts. La casse et le Delbor, ma race et mon folklore, la crasse qui détériore leur emblème tricolore. Derrière les barrières se trouve ma carrière, aujourd'hui le brouillard et demain la fourrière. Que veux-tu que j'espère, faire du son, du sport? La photo est trop foncée sur mon passeport. Je suis aigri, amer, le cœur sous armure, n'aime que la rancœur, le hardcore et le rap dur. Me tape sur les murs, m'en tape du futur, joue ma vie au baltrap jusqu'à ma sépulture. La haine me suit, là où je suis. J'ai du mal à garder le fusil dans les tuiles. J'ai rempli le canon et puis il se peut qu'un beau jour pour un rien j'appuie. La chance me fuit là où je suis. J'ai du mal à garder le fusil dans les tuiles. J'ai rempli le canon et puis il se peut qu'un beau jour pour un rien j'appuie. Je suis noir, désinvolte et en révolte, et il en résulte mes raisons de prendre le colt. Au vu de ce que je récolte, la crise et la honte, la haine qui me hante, la tension qui monte, le glaive sur ma tête et puis sur ma route. Sirène, descente, doute et déroute, une sale vie d'adulte que seul le sang exalte et qui souvent exulte quand il coule sur l'asphalte et sa suinte. La crainte, les pleurs et les plaintes, les ruses et les feintes, les caves que j'emprunte, les pentes que j'arpente, l'ennui et l'attente, l'achat et la vente et les rêves qu'on s'invente, les flics qu'on évite, souvent qu'on évoque, quand tribunaux et grandes instances nous convoquent. Et je suis ce produit qu'on a réduit à marcher jour et nuit, le fusil dans les tuiles. La haine me suit, là où je suis. J'ai du mal à garder le fusil dans les tuiles. J'ai rempli le canon et puis il se peut qu'un beau jour pour un rien j'appuie. La chance me fuit, là où je suis. J'ai du mal à garder le fusil dans les tuiles. J'ai rempli le canon et puis il se peut qu'un beau jour pour un rien j'appuie. La haine me suit, là où je suis. J'ai du mal à garder le fusil dans les tuiles. J'ai rempli le canon et puis il se peut qu'un beau jour pour un rien j'appuie. La chance me fuit, là où je suis. J'ai du mal à garder le fusil dans les tuiles. J'ai rempli le canon et puis il se peut qu'un beau jour pour un rien j'appuie. Kazé, en falch, 2005.
Vous venez d'entendre Kazé, avec le fusil dans l'étui.
Alors, vous êtes toujours sur Dégenré, sur Kaléidoscope 97 FM, donc les 2e et 4e mercredis du mois de 18h30 à 20h, et c'est rediffusé aussi les lundis
à 19h.
On reprécise parce qu'il y a eu quelques soucis dans la programmation là, ces derniers temps. Voilà, par rapport à l'ordinateur de Kaléidoscope. Alors vraiment, n'hésitez pas à vous rebrancher sur les rediffusions si jamais, pour une raison ou une autre, vous n'aviez pas pu nous entendre.
Et vous pouvez toujours nous joindre, nous écrire donc, en nous envoyant un mail si vous souhaitez nous donner, je sais pas, nous dire quelque chose, quoi que ce soit. Et vous pouvez nous écrire à Dégenré, donc ça s'écrit Dégenree. @boom.org et boom c'est B-O-U-M.
Un peu comme une explosion, vous voyez.
Voilà, ça nous va bien, je crois. Et aussi, je voulais préciser que pendant la lecture d'Audrey Lorde, les pauses musicales, c'est un groupe qui s'appelle Gutspire Shot.
Voilà, alors c'est difficile de reprendre la parole après tout ce que Audrey Lorde nous amène de réflexion sur... Comment elle et puis ses sœurs et voilà elles se sont emparées de cette colère et comment c'est un vrai outil à la fois de changement radical pour elles et en même temps de travail qu'on peut faire ensemble aussi. Donc je crois que nous souvent on passe pour des énervés, hein. Je pense que si vous nous écoutez un peu des fois peut-être vous dites quand même elles y vont un peu fort ou quand même elles sont un peu hargneuses ou je sais pas. Et c'est vrai que c'est pas toujours facile à assumer parce qu'on a envie d'établir des solidarités, de plutôt lutter ensemble plutôt que contre. Mais je crois que parfois il y a vraiment il y a besoin d'exploser vraiment fort cette colère parce qu'elle est... Elle est légitime, elle repose sur des motifs qui sont bien réels dans notre société.
Et ces colères devraient être entendues et nous avons aussi, nous, féministes blanches, même avec toutes nos réflexions, toutes nos belles intentions, à nous poser des questions, à nous interroger sur nous-mêmes, sur ce que nous portons comme racisme à l'intérieur de nous, malgré le fait que oui, moi j'ai été éduquée par des parents antiracistes et tout ça, mais et alors je dois m'interroger. Et c'est en ça que ce texte, nous avons choisi de le porter, c'est que nous avons à nous questionner nous-mêmes sur ce que nous portons comme histoire.
Et je crois que c'est aussi toujours ces mécanismes, et on a fait des parallèles à certains moments sur ces mécanismes-là, comme sur des mécanismes de sexisme complètement intégrés. C'est pareil, je pense qu'aucun parent ne se dit comme ça consciemment, oui, je vais éduquer mon petit garçon à être dominant, à écraser les femmes autour de lui, etc. N'empêche que c'est des valeurs comme ça, inconscientes, qu'on transmet dans l'éducation, dans la famille, par l'école, etc. Et il y a des tonnes d'exemples autour de nous. Et je crois que c'est ces inconscients collectifs sur lesquels on veut vraiment travailler pour se dire, mais ne nous pensons pas à l'abri du racisme intégré, à l'abri du sexisme intégré. Je pense que ça fait partie aussi de nos cultures. Et du coup, c'est toujours ce truc que peut-être pour mieux le combattre, il faut déjà l'identifier à l'intérieur de soi, quoi.
Alors, on va écouter un morceau d'Erita Mitsuko. Et après on verra, vous verrez bien. Restez en ligne sur la radio.
Celle qui fit fondre un cœur de fer. fête et toute nue, elle chante comme ça.
Commence, ça commence, toute la forêt se met à parler.
Mais en transe, de par sa mère, la sorcière s'arrête.
Comment s'élever, comment prier, comment soigner,
empoisonner,
comment chanter et comment danser.
Il arrivait dans la région, l'inquisiteur. C'était un homme passionné, l'inquisiteur. Il voulait sauver l'humanité, pauvre pécheur de l'éternelle damnation. Alors attention, ils sont venus l'apprendre.
On voyait qu'elle aimait être amoureuse, et sa longue chevelure faisait comme une couverture à peine à voir. Maintenant sale,
ah, tu m'assassines,
sauve ton âme.
C'est le diable qui accouche. Tu voudrais bien que je te touche. D'ailleurs, tu fais tout pour me plaire. On peut dire que tu sais y faire. Non, c'est l'air qui vibre et tu fais sale.
Oh, comme t'es libre et comme t'es bonne. Le grand inquisiteur sent battre son cœur. Le grand inquisiteur.
Toujours sur Dégenré, l'émission féministe sur Radio Kaléidoscope, nous vous invitons maintenant à un petit voyage vers Nancy, où j'ai joué un peu la spéciale journaliste reporter avec mon micro pour une manif féministe.
Et oui, alors une manif de rue. Et là encore, c'est une autre utilisation de cette colère. Un moment de se dire... Ouais, déjà, pour moi-même, c'est important que je puisse m'autoriser à l'exprimer. Et puis alors, dans la rue, là encore, c'est vraiment sortir de nos rôles que de dire « Mais ouais, je prends plein de place dans l'espace public et aussi pour de la colère ».
Enregistrement pour Dégenré sur la colère. Je suis à Nancy pour une manifestation de nuit avec une quinzaine de meufs et on va voir ce que ça donne.
Depuis la nuit des temps, les femmes, nous sommes le continent noir. Debout, femmes esclaves, et brisons nos entraves.
les gens.
T'as qu'à me dire qu'est-ce qu'il y a écrit sur les différentes pancartes.
Alors, Niette a une double pancarte. Elle a une pancarte où il est écrit « Il est 3h, je suis bourrée, mais je suis majeure et vaccinée, ou pas ». Elle a une autre pancarte où il y a écrit « La nuit, toutes les chattes sont grises ». Et en dessous, en petit, écrit « N'ayons plus peur de sortir les soirs ». Il y a une autre pancarte où il y a écrit « Ce n'est pas parce que je me balade seule ou avec d'autres femmes que je suis disponible. Ce n'est pas parce que je suis disponible que je veux coucher avec toi. Mon corps m'appartient. » Et j'ai récupéré ma pancarte. Je me suis fait avoir à cause de toi. Et sinon, on en a une avec écrit un superbe slogan qui dit que le féminisme sera dépassé quand le machisme aura trépassé. On a pas mal hurlé là jusque-là, je suis assez étonnée pour 10 nanas.
Ouais, ça va,
on s'est fait cracher dessus, rouler dessus par une voiture.
Et pourquoi elle est non mixte cette manif?
Elle est non mixte parce qu'on pensait que c'était... Enfin, on pense toujours, hein, même si on est que 10, que c'est important pour les femmes de... Alors là, il y a la police, c'est vachement moins drôle.
On n'a qu'à avancer.
On n'a qu'à avancer. On pense que c'est vachement important pour les femmes de se réapproprier leur ville la nuit. Et de lutter ensemble et d'être solidaire et du coup de se réapproprier le lieu fort hostile qu'est la ville la nuit, ici même à Nancy. Et c'est important pour nous qu'il n'y ait pas d'hommes. C'est-à-dire de pouvoir revendiquer ça en tant que femme et avec les femmes et pour les femmes.
Le féminisme sera terminé quand le machisme aura trépassé. Le féminisme sera dépassé quand le machisme aura trépassé.
Par rapport à la pratique de la non-mixité, vous rencontrez beaucoup de critiques
À Nancy, horriblement. Je pense qu'à Nancy, on est 3 à prôner la non-mixité. Mais souvent, on se heurte, ici comme je pense ailleurs, au problème de l'exclusion et de la sectarité, du sectarisme que renvoie la non-mixité. Femme. Parce que la non-mixité homme, c'est logique, hein, en fait. Parce que la non-mixité homme, elle est de fait, partout. C'est-à-dire que quand on va dans un bar, c'est non-mixte homme. Alors c'est pas marqué dessus, mais juste c'est de fait. Mais alors de revendiquer un lieu non-mixte femme, donc de le revendiquer, que ce ne soit pas logique de fait, et ben c'est difficile. Hein.
Toi, t'en penses quoi?
Moi, je suis d'accord avec ça. C'est que quand il y a une réunion d'hommes... Ça paraît complètement naturel. Naturel d'ailleurs un terme que je n'apprécie guère, mais on va l'employer. Mais que quand il y a un regroupement féminin, alors là tout de suite, il y a questionnement, il y a un pourquoi, machin. Et ça paraît complètement anormal, on ne sait pas pourquoi. Et du coup, on a une position qui paraît dans la société qui est illégitime. Alors que finalement, on a ce droit-là, qu'on a le droit de prendre, mais que personne ne nous laisse prendre. Et nous l'avons pris ce soir, même si nous sommes très peu nombreuses.
L'une de notre ignorée, ils nous ont divisé les femmes et de nos sœurs séparées.
On remet la marche. Vas-y. Voilà.
Tiens, tu peux me raconter ce qui vient de se passer là?
Alors là, il y a en fait Claire qui est montée sur les épaules de Leïla pour mettre un panneau dont je vais te lire l'écriteau. Rue du droit à l'avortement, libre, gratuit et non culpabilisant. Voilà, je pense que j'ai fait un bon résumé de la situation. Merci.
La colère.
La colère, c'est mal.
Ah bon?
La colère, c'est très mal.
Moi, je trouve que la colère, c'est bon, tu vois.
Il faut pas se mettre en colère.
Moi, je veux dire, à un moment donné, il faut extérioriser, voilà. Et je pense que c'est nécessaire. Voilà. Après, chacun a son point de vue, tu vois. Claire considère que la colère, c'est mal. Moi, je pense que c'est vraiment bien.
Et toi,
surtout quand on est femme.
T'exprimes comment ta colère, toi?
De plein de façons différentes. Là, j'ai pas d'exemple précis qui me viennent à la tête. Mais par exemple, là, je pense l'exprimer. D'une manière complètement bourrée, mais je pense le faire.
D'accord.
Voilà.
Et quand t'es en colère, tu te laisses être en colère quand tu...
La plupart du temps, j'essaie quand même de maîtriser un minimum, sinon je ferais beaucoup peur. Mais quand même. Quand même, ouais. Donc, quand même, quand je suis en colère, je pense que les gens le savent. Du moins, les gens qui me connaissent, avec qui je peux me permettre d'être en colère. Parce que voilà, en fait, je peux être en colère facilement, mais le truc, c'est que je me contrôle aussi un minimum pour pas faire peur aux gens. Arrête! Mais arrête de rire, putain! Enfin, je vais m'arrêter là.
Reconnaissons-nous les femmes, parlons-nous, regardons-nous. Ensemble, on nous opprime les femmes, ensemble, révoltons-nous.
Pour les femmes, les femmes, les femmes, ce sont toujours les femmes qui sont exploitées dans cette société.
Alors, je commande l'action, donc toujours Claire monte sur Leïla et colle une pancarte sur une pancarte de rue où il est écrit « Rue de la revanche des femmes ».
En tout genre.
En tout genre, exactement. Merci pour la précision. Donc, voilà.
Elle commence par l'humanité de la femme, se moquer d'elle, etc. Jusqu'à ce qu'elle soit soumise, elle perd confiance.
Mais de là à aller jusqu'à l'acte physique, ça,
mais
c'est
ça, y a qu'un pas.
Démesuré.
Il n'y a qu'un pas, mais bien sûr que non, c'est pas démesuré. Comment tu expliques que régulièrement, tous les jours, il y a des tas de femmes qui se fassent violer? Ça veut dire que tous les jours, il y a des tas d'hommes qui violent, quoi.
Tu vois, non, je pense que c'est pas le fait que notre société est... Comment? Un peu renversée par la sexualité omniprésente, tu vois. Je pense pas que ce soit...
Mais avant, pourtant, il n'y avait pas... Tu parles de publicité, mais ça alimente tout ça.
Oui, ça alimente, on est d'accord.
Ça l'alimente.
Mais ça alimente à l'excès. Mais avant, je pense pas qu'il y avait plus de viols que maintenant.
Je suis pas d'accord.
Ouais,
je suis
quoi,
pas forcément. Ouais, enfin, ça dépend. Quand tu dis avant, mais à la limite, fais des recherches comme nous on peut en faire sur des chiffres, tu vois, des choses.
Mais alors c'est quoi vos études statistiques? Vous êtes, enfin, je sais pas.
Je viens de te le dire, rien que à notre
là
une maintenant.
Femme sur trois, oui, d'accord.
Ouais, tu trouves pas que c'est énorme, non? Tous les trois jours, une femme qui meurt en France. Tous les trois jours, il y a une femme qui meurt sous les coups de son compagnon, quoi.
Bah, c'est sûr.
Tous les jours, il y a des femmes qui se font violer. Ça peut être ta sœur, ta mère, ta fille, ta cousine, ton amie. C'est tous les jours. Tous les jours, il y a des femmes qui se font violer, quoi.
Ok, oui.
Et ben alors, t'as pas envie de faire quelque chose? T'as pas envie de réagir?
Tu écoute,
ça a toujours été comme ça, c'est normal, tu vois.
Que moi, je
pas
me
te
sens
de questions. Nous, on a envie de se poser des questions.
Je me sens concerné par ta cause, mais je me sens pas concerné par les mecs qui frappent.
Mais il y en a aucun qui sont concernés. Ouais, ça peut te consoler, vous êtes nombreux à ne pas vous sentir concernés.
Vous restez dans votre truc sectaire, entre
Exactement. Mais ouais, moi c'est mon but dans la vie.
Femmes, nous disons non à la fatalité. Nous femmes, nous disons non aux viols légalisés. Victimes d'un ordre que nous changerons. Victime d'un ordre que nous changeons.
Mario, vous nous placez le clito.
Oui. Et ben voilà, là tout de suite on est sur une magnifique place, on se croit au Louvre, c'est le cauchemar. Et on est à Nancy, et il y a un gars, il est arrivé, hyper genre comme ça, les cheveux en arrière et tout, et il nous dit, c'est quoi? C'est un enterrement de vie de jeune fille. Hyper comme ça, on lui dit, ah bah non, pas du tout, c'est parce qu'on en a ras-le-bol des gars et l'oppression masculine dans notre vie. Et là il dit, ah oui, ah bah c'est pas pareil, ah bah du coup je vais peut-être y aller alors.
Gare à vous, on vous rendra les coups, macho. Gare à vous, on vous rendra les coups, macho. Gare à vous, on vous rendra les coups.
Une colère, mais la colère m'envahit, mais tu n'imagines pas à quel point j'ai la colère.
Gare aux macho, les femmes auront ta peau. Gare aux macho, les femmes auront ta peau. Les femmes auront ta peau. Il est 3 heures, je suis bourré.
Pas.
Dans la jungle des rues, les femmes rugissent. Dans la jungle
des rues,
les femmes rugissent. On y croit les filles.
Cato, facho, macho, vous nous cassez le clito.
C'était bon. Quelle réaction? Il y a eu une pancarte d'accrochée alors?
Ouais. C'est place du macho mort ou un truc comme ça, parce que à la place de cette espèce de gros vieux beau qui nous regarde et qui domine la place complètement et qui ah, un beau symbole, et ben je crois qu'il y a un truc genre ouais, place du macho mort qui a été collé sur la statue, ce qui est pas mal finalement, en espérant que ça fasse des réactions.
Il y a des filles qui se prennent en photo devant la pancarte, on dirait.
On dirait, effectivement, c'est pas mal, c'est sympa, j'aime assez.
Ouais. Est-ce que ça marche au moins?
Moins nombreuses parce qu'il y en a qui... Ouais, elles sont parties, elles se sont fait payer des coups par des mecs.
Non.
Elles sont parties boire un verre en terrasse.
C'est une blague.
Mais oui, c'est une blague.
Par centaines. Et des femmes par milliers. Des femmes par centaines. Des femmes par milliers.
Que se passe-t-il?
Alors, nous sommes rue Saint-Jean et là, il y a toujours Claire qui monte sur Leïla pour coller un panneau de la rue Saint-Jean où il est écrit rue de la libération, excusez-moi, de la grosseur. Donc elle l'a très bien collé, c'est parfait, c'est une mission réussie, mission accomplie. Voilà.
Et pourquoi appeler une rue rue de la libération de la grosseur?
Alors, à mon avis... C'est contre le culte de la minceur, dirais-je. Je pense qu'à un moment donné, il faut... voilà, c'est en fait contre tout ce qui est où la femme doit être mince, belle, séduisante et baisable, finalement. Et donc, c'est contre cela. Donc, nous rebaptisons une rue, rue de la grosseur, pour mettre en avant et valoriser les femmes qui ne sont pas, qui ne répondent pas aux stéréotypes de la féminité mince.
Cato, facho, macho, vous nous cassez le clito. Cato, facho, macho, vous nous cassez le clito.
C'est bon. Magnifique. Nous avons donc rebaptisé la rue Saint-Jean, qui est la plus grande rue de Nancy, la rue du tram donc, rue de la fin du viol conjugal, collectif, de guerre et autres. Et c'est beau.
Des femmes, pas centaines. Et des femmes par milliers, des femmes par centaines et par milliers.
Et alors, t'en penses quoi de cette manif où on est 10?
Eh ben, je trouve ça drôle en fait. Mais c'est drôle, on fait plein de trucs et on se permet plein de choses en fait du fait d'être peu.
Le temps de la colère, les femmes, notre temps est arrivé.
est en colère. Mon vagin est en colère.
Mon vagin est en colère. Il l'est. Il en a ras-le-bol. Mon vagin est furieux et il a besoin de parler. Il a besoin de parler de toute cette merde. Il a besoin de vous parler. Je veux dire, c'est quoi ça? Cette armée de gens là dehors qui élabore des moyens de torturer mon pauvre, mon doux, mon tendre vagin. Qui passent leur journée à inventer des trucs de fous pour détruire ma chatte. Toute cette merde qu'ils essayent constamment de faire entrer en nous, ou avec laquelle ils veulent nous nettoyer, avec laquelle ils veulent nous fourrer comme des dindes. Toute cette merde, mais faites-la disparaître. Non, mon vagin ne partira pas. Il en a ras-le-bol et il est bien décidé à rester ici. C'est comme les tampons. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Un putain de paquet de coton sec enfoncé à l'intérieur. Ils ne peuvent pas trouver un moyen de subtilement lubrifier le tampon. Dès que mon vagin en voit un, il tombe en état de choc. Pas moyen qu'il dit. Il se ferme. Il faut y aller progressivement avec le vagin. Le présenter aux choses, préparer le terrain. Vous devez convaincre mon vagin, le séduire, gagner sa confiance.
Faites quelque chose dans ce sens-là. Faisons quelque chose dans ce sens-là, quelque chose qui nous fasse plaisir. Mais non, bien sûr, ça ils le feront pas. Ils détestent voir une femme prendre du plaisir, surtout du plaisir sexuel. Je veux dire, créons donc de chouettes sous-vêtements en coton, avec un titilleur intégré à l'intérieur. Les femmes jouiraient toute la journée. Elles jouiraient au supermarché, dans le métro, ils jouiraient les vagins. Mais ça... Ils le supporteraient pas de voir tous ces vagins heureux, chauds et excités. Mon vagin à moi, maintenant, il veut voyager. Il ne veut pas trop de compagnie. Il veut lire, apprendre des choses et sortir plus souvent. Il veut du sexe. Il aime le sexe. Il veut aller plus loin, plus profond. Il raffole des profondeurs. Il veut de la tendresse. Il veut du changement. Il veut du silence, de la liberté, de tendres baisers, des liquides chauds et des caresses profondes. Il veut du chocolat, il veut crier, il veut arrêter d'être en colère, il veut jouir, il veut vouloir. Il veut mon vagin, oui, il veut tout.
Mon vagin, c'est mon trésor. Il ressemble à qui je suis, un jumeau coulé dans l'or de mon amour pour la vie. Il est devenu immense, si doux et si délicat. Le blesser, c'est une offense faite à la vie. Il a donné du plaisir et la vie à quelques-uns, mais aujourd'hui il soupire, il voudrait aller plus loin. Mon vagin, c'est mon trésor. Il ressemble à qui je suis, un jumeau coulé dans l'or de mon amour pour la vie. Il a besoin de silence, d'humour et de poésie, de douceur et de patience, pour qu'il ait encore envie, pour qu'il donne sa quintessence, ce pourquoi il est en vie, sa nature, sa transcendance, redonner ce qu'il a appris. Mon vagin, c'est mon trésor. Il ressemble à qui je suis, un jumeau coulé dans l'or de mon amour pour la vie. Il est relié au cœur, c'est une seule maison, c'est mon chemin, ma demeure, c'est l'endroit de mes passions. Mon vagin, c'est mon trésor. Il ressemble à qui je suis, un jumeau coulé dans l'or de mon amour pour la vie.
Petit changement de rythme dans cette émission avec Delphine. Je n'en sais pas plus sur elle. J'ai eu cette chanson la semaine dernière par une amie. Alors, c'est l'amie d'une amie qui a enregistré cette chanson avec sa guitare et sa voix. Et bon, ça allait bien après Mon vagin est en colère. Hein, et c'était voilà, cette chanson qui est, je pense, un truc assez DIY, là, cet enregistrement-là. Voilà. Peut-être même exclusif, enfin j'en sais rien en fait. Mais voilà, donc elle s'appelle Delphine, c'est tout ce que je sais d'elle. Et j'avais envie de dire un peu avant, après le reportage là, sur la manif féministe à Nancy, on a écouté Antiproduct, voilà, avec une chanson qui s'appelle, il me semble, The Power of the Medusa. Avec mon superbe accent anglais, n'est-ce pas? Voilà.
Voilà, donc plein de modes d'expression différents de la colère. Donc aussi, mon vagin est en colère. Donc c'est clair que autour de la sexualité, de nos corps et tout ça, c'est vrai que on a un peu la haine parce que on a effectivement, comme c'est dit aussi dans la manif, on a un peu la haine qu'on nous dicte sans arrêt comment on doit se comporter avec notre corps, qu'on l'enferme, qu'on l'empêche d'avoir du plaisir, etc. Ce texte, Mon vagin est en colère, il est issu d'un spectacle, enfin d'une pièce de théâtre en fait, qui s'appelle Les monologues du vagin. Et qui peut être joué. Alors nous, on en fait une forme plus de spectacle discussion. Donc on vous annonce de temps en temps des dates. On vous tiendra toujours au courant de prochaines dates.
Moi, sur la colère, j'avais une chose que j'avais envie de dire, de vous questionner. C'était sur la question de la répression de la colère. On en a un peu parlé, mais observez autour de vous, souvent, ça n'arrive pas très souvent déjà, mais quand il arrive qu'une femme se mette en colère, quand il arrive qu'elle prenne une rage, une vraie rage, quitte peut-être même à en venir au poing, à ses mains, à une violence physique, qu'est-ce qui se passe dans ces moments-là? Vous savez, en général, on la contient. La plupart du temps, moi j'ai observé beaucoup d'expériences comme ça, où on va contenir la femme. En général, sa colère et sa rage s'expriment contre un homme. Et en général, c'est la femme qu'on contient dans ces cas-là. Et j'ai envie de questionner ça. Pourquoi n'écoutons-nous pas ces manifestations de colère, de rage, quand elles arrivent? Des femmes qui, oui, n'en peuvent plus et qui en viennent à la violence physique, effectivement, mais peut-être y a-t-il des raisons derrière. Et avant de, peut-être séparer les corps, d'accord, mais avant de contenir la femme, de la réprimer, de rendre répréhensible sa violence, peut-être tentons de la comprendre et de savoir qu'est-ce qui s'est passé derrière, c'est quoi l'histoire qu'il y a avant. Je vous assure qu'en général, l'histoire qu'il y a avant n'est pas drôle et légitime beaucoup de choses, à mon avis.
Et alors, par rapport à ça, moi, je vous conseillerais vraiment la lecture d'un livre, en fait, qui s'appelle « Éloge du conflit », qui est un bouquin, en fait, donc d'un auteur bien connu qui s'appelle Miguel Benasayag. Donc, c'est un homme. Mais il se trouve qu'il l'a écrit avec une femme qui s'appelle Angélica Dos Reyes, il me semble, et qui, à mon avis aussi, introduit une analyse féministe dans ses réflexions. Mais c'est vraiment, en fait, sur ce rapport à... Voilà, quand il y a une... Alors, eux, ils parlent de conflit. Hein, c'est un bouquin un peu sociologique, d'analyse, etc. Et de réflexion politique. Et eux, ils parlent de conflit. Et là, en fait, ils disent que c'est là qu'ils se jouent des choses énormes et qu'on est dans une société qui a appris, en fait, à complètement étouffer le conflit. Ou alors, ce qui vont éclater, c'est des petites disputes, donc, mais c'est vraiment à la surface des choses. Et le conflit, pour moi, c'est vraiment, ça correspond à la notion de colère développée là par Audre Lorde. C'est-à-dire que c'est, on va au fond du problème, on touche, c'est quoi les enjeux réels qu'il y a derrière, les enjeux humains, politiques, etc. Et c'est, et du coup, une fois qu'on touche à ça, et ben, c'est là qu'on peut vraiment avancer, en fait. Parce que on reconnaît les dimensions du conflit, on reconnaît, comme tu disais, Marina, on reconnaît les raisons qui poussent une personne à agir. Et on va pas nier cette personne dans son histoire, dans son vécu, etc. Voilà, donc ça c'est voilà un bouquin qui je trouve qu'amène pas mal de réflexions là-dessus et qu'effectivement c'est pas facile, que des fois on a envie de se dire ah, mais voilà c'est ben soutenons-nous, aidons-nous dans nos démarches, etc. Mais peut-être que c'est une vraie aide qu'on peut s'apporter aussi à une aide à donner de l'espace aux amis autour de nous pour qu'elles puissent exprimer leur colère, à pas les réprimer là-dedans, quoi.
Sur tout ça, c'est hyper intéressant. Moi, je trouve, voilà, on pourrait en parler pendant des heures. J'espère que ça vous a donné des pistes de réflexion, que amené des idées. J'espère que ça vous accompagnera. On peut vous annoncer la prochaine émission des Genrés qui aura lieu le 11 juin et qui sera une émission sur la science-fiction, les femmes, le féminisme, un peu un voyage dans la science-fiction avec toujours notre regard féministe, donc qui nous pose à nous interroger sur tout un tas de choses. Je vous donne rendez-vous le 11 juin pour cette émission-là.
Qu'il y aura même une suite, je crois que c'est vraiment les deux prochaines émissions, les 11 et 25, hein, puisque c'est les 11 et 14, ça doit être 11 et 25 juin, ce sera aussi une continuité toujours dans cet univers de la science-fiction.
Alors nous vous souhaitons une bonne soirée.
Et une dernière annonce avant de nous quitter, une bouffe féministe. Voilà, c'est un moment chouette de rencontre, de convivialité, d'échange. Et du coup, voilà, qui est un espace. Alors si vous avez des colères à exprimer, on essaiera de vous laisser la place. Et puis aussi, pour se retrouver de manière conviviale, agréable et tout, avec quelque chose à partager, à boire ou à manger.
Alors c'est mardi 3 juin, c'est au local autogéré. Le local autogéré, c'est 6 rue Pierre Dupont à partir de 19h. Donc n'hésitez pas à venir.
À nous rejoindre.
À nous rejoindre. Bonne soirée à vous, à bientôt.
Au revoir.